Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Lana. Salut Lana.
Salut Cyrus.
Comment ça va ?
Bah ça va, tu sais que c'est mon premier jeu du mois.
Mais oui, disons, c'est ce que j'allais dire, c'est incroyable quand même.
Ouais.
Comment ça se fait ?
J'attendais le bon jeu pour commencer à en parler.
Le bon jeu. Et comme tu nous as fait une déclaration d'amour pour Feld en début de saison, hein, on le rappelle, dans l'émission Mes auteurs préférés, je ne sais plus quel titre précis de l'émission, on se doute du coup de qui est l'auteur du jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Vous êtes, vous êtes pas devin, mais vous devinez bien.
Bravo. Ok, bon. Effectivement, donc on va parler de Sivolution pour toi.
C'est ça.
Ouais, Sivolution, donc de Stefan Feld. Et de mon côté, je vais vous parler de Sengoku, Province en guerre, peut-être je risque de ripper et d'appeler Rumble Nation, parce que c'est son nom d'origine, et que j'y reviendrai, mais c'était la version que je possède en réalité. Voilà, la supercherie est d'ores et déjà éventée. Bah écoute, on va attaquer l'émission, du coup, Lana, si ça te va.
Ouais, mais avant de démarrer, on va remercier nos donatrices et nos donateurs, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce podcast. Mmh. Un grand merci donc à Siol, Olfemv, Delot, la famille Gerpé, Gnocchiflette, Paul, Caucase, Olive Link, Arnaud VM, Croclume, Benji B, Calervé et Hammer. Merci également à la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques. Alors on est parti. Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Et elles sont toutes équipées d'un café-jeu. Mais il y a surtout une boutique de vente de jeux en ligne sur cavernedugobelin.com.
Et on va regarder les commentaires de l'émission précédente également. Lana, l'émission précédente était consacrée à Présage et Opération Zèbre. Donc c'était Beno FX et Kurt.
Qui avaient,
dans le désordre du coup, puisque c'était Kurt qui parlait de Présage et Beno FX qui parlait d'Opération Zèbre, même si évidemment les deux ont interagi. Malheureusement, je crois qu'il y a un petit problème avec les commentaires de cette émission.
Ouais, bah écoute, je pense que les chroniqueurs ont été parfaits. Ils ont dû être très très complets dans leurs explications et leurs analyses parce que, ouais, en effet, pas de commentaires sur l'émission précédente. C'est triste.
Bah ouais, c'est un petit peu triste, mais bon, voilà, on va effectivement se dire que c'était complet. Et du coup, bah, ça va nous laisser d'autant plus de temps pour parler des deux jeux dont on souhaite vous parler aujourd'hui. Donc, les jeux du mois, c'est un peu les coups de cœur de l'équipe. Hein. Et donc, on va démarrer tout de suite. Et Lana, tu vas donc pouvoir nous parler de Sivolution.
Sivolution, c'est un jeu de Stefan Feld, illustré par Dennis Lohausen, édité chez Deep Prime Games, Pegasus Spiel. Il y a un Grell Games aussi qui traîne dans le coin, c'est pas très très clair leur implication.
Ouais, alors du coup j'ai l'impression que le localisateur, en réalité c'est Grell Games. Mais on voit Matago sur la boîte française,
ouais.
Et sur les visuels sur internet on voit Grell Games quand même.
C'est ça, on n'a pas réussi à élucider ça et on a regardé, Grell Games c'est en Australie, on n'a pas compris. Si quelqu'un a la réponse à cette interrogation, qui est Grell Games dans l'affaire, dites-nous. C'est un jeu pour 1 à 4 joueuses, recommandé à partir de 14 ans pour des parties qui durent entre, 1h30, 3 heures, voire plus. Pour la première, en tout cas.
Ouais.
C'est actuellement disponible à la Caverne du Gobelin pour le prix de 85,90€.
Et alors, je vais faire mon cargo dans cette émission, parce que je pense qu'on doit faire un trigger warning quand même. Cargo a pour habitude de donner le poids BGG, et je pense que ça va être important de le donner, parce que c'est quand même un jeu qui est annoncé sur BGG avec un poids de 4,2 sur 5. Je rappelle, hein, la note, elle est sur 5. Et c'est quand même le très très haut du panier.
C'est vrai, c'est un gros jeu bien costaud en effet.
Ouais. Bon, on va avoir le temps de développer un peu le peut-être le pourquoi de cette note, quoi. Je la trouve au final peut-être un poil surévaluée, mais bon, voilà, voilà, on aura peut-être l'occasion d'échanger dessus.
Eh bien, je vais te raconter un petit peu comment j'ai découvert ce jeu. Bon, tu sais que je suis une grande amatrice des jeux de Feld.
Ouais, ouais.
Alors, il y a plein de réimplémentations de ces anciens jeux, mais en fait, moi, je vise plutôt ces stand-alone, ces nouveautés. Et Sivolution, c'en est une. Je l'ai d'abord vu à Essen en 2023, je l'ai revu à Essen en 2024, mais je ne me sentais pas d'avoir une heure d'explication en anglais sur un salon de jeu très bruyant, pas très propice à la concentration. Et puis le jeu était annoncé en français quelques semaines après. Bon, bah, il suffisait d'être patient. Eh bien, pas de chance. Comme ça arrive souvent, en fait, sa sortie, elle a été décalée, mi-décembre.
Ouais.
Bon, ok, bah, j'attends. Et puis ensuite, on a eu une annonce, ça sortait seulement en février. Et puis finalement, en vrai, c'est sorti que mi-avril. Là, ça vient juste d'arriver. Et moi, je voulais absolument y jouer pour voir s'il ferait un bon diamant d'or. Du coup, la version dont je vais vous parler, c'est celle que j'ai et elle est en anglais.
Alors, parce qu'on peut rappeler, enfin, on va rappeler ou expliquer aux auditeurs et auditrices que tu fais partie du coup du jury du diamant d'or que vous avez intégré Drew et toi cette année.
C'est ça.
D'où le j'aimerais bien savoir s'il ferait un bon diamant d'or.
C'est ça.
Et du coup, ouais, grosse attente quoi, de ton côté. Quoi.
Grosse attente. Le fait que ça soit estampillé Feld, ouais. C'était évidemment une grosse attente de mon côté. Et d'ailleurs, aussitôt qu'il est arrivé, il a été joué. Enfin, presque. Parce qu'en fait, Sivolution, c'est un très gros jeu et il fallait d'abord se farcir les 40 pages de règles avant de jouer.
C'est pas juste une façon de parler. Hein. C'est littéralement 40 pages.
C'est ça. Alors, je vais vous raconter le thème du jeu qui est assez incroyable. On est des étudiants dieux qui passons notre examen de développement de civilisation.
C'est pas évident de se mettre dans le rôle quand même.
Non. En fait, le jeu, il est basé sur des lancers de dés et des cartes. Bon, autant dire que l'aléatoire, on va en avoir et on y reviendra. On a un pool de dés et en les mettant deux par deux, ça va nous permettre de faire une case action bien particulière. Et chaque tuile action, d'ailleurs, peut être améliorée jusqu'à deux fois et devenir de plus en plus forte. Sivolution, c'est la contraction de civilisation et de évolution. Donc ce mix, c'est donc un 4X pour des peuples qui vont se déplacer sur une carte et l'évolution de ces peuples, soit sur des pistes de développement, soit en posant des cartes qui leur donnent des capacités ou des connaissances. C'est tout d'abord donc un jeu de civilisation. On va retrouver une grande carte que j'appellerai map en anglais pour ne pas mélanger avec les cartes qu'on peut jouer de sa main.
Alors, figure-toi que j'ai appris il n'y a pas longtemps, mais vraiment pas longtemps, genre une semaine ou deux, que le terme map existait en français. Apparemment, c'est du vieux français ou je ne sais pas quoi, mais c'est un usage très limité. Et ça s'écrit M-A-2-P-E, donc du coup, tu peux tout à fait librement dire map.
Eh bien, ça, c'est bien, parce qu'on a tellement de jeux où il y a des cartes map et des cartes en main qu'on ne sait jamais de quelle carte on parle.
Ouais. Soyez libérés, les gens. Alors, ça doit être québécois, je crois. Enfin, je n'ai pas creusé complètement, mais ce qui expliquerait du coup la proximité du terme anglais. Quoi. Mais,
Donc, on a une grande map, même une très grande map. C'est une map qui déborde de la table, hein, tellement elle est grande. Spoiler alert, c'est le premier jeu où je vois une alerte en rouge dans la règle qui dit qu'il faut jouer sur une table d'au moins 130 cm par 90. Bah, vraiment les grandes tables. Hein.
Ouais, c'est pas marqué au dos de la boîte, en revanche, que dans la règle.
Ouais.
Du coup, tu le découvres quand. Ah merde, non, j'ai pas la table pour, je vous la ramène, j'ai pas la table pour.
Bon, si tu t'es un peu renseigné sur le jeu avant, les plateaux.
Oui, voilà.
Ouais, tu te rends compte de l'ampleur. Bon, je suis pas sûr que ça soit le plus grand plateau de jeu jamais vu, mais au moins, on est prévenu.
Ouais, non, effectivement, il y a des trucs encore plus grands. J'ai en tête un truc qui s'appelle Méga Civilisation. Je crois que c'est d'être genre, j'exagère peut-être un peu, mais genre il faut l'équivalent de 4 plateaux de site ou un truc comme ça, tu vois, pour faire la map
ah oui.
du jeu.
En effet. Et bien sur notre map de civilisation, qui va être différente à chaque partie, on est à la mode des 4X. On va pouvoir explorer les différentes régions de la map, y retrouver des ressources. On peut s'étendre sur la map en procréant. On va pouvoir exploiter les différentes régions qui ont des mines de ressources particulières en fonction de leur sol. Et pour le exterminate, bon, alors là, c'est plus limité parce qu'en fait, on ne va pas décimer les autres peuples. On peut, par contre, les pousser en dehors des campements, ce qui va les obliger à dépenser un peu plus de nourriture à la fin de chaque ère. Mais ça nous affaiblit aussi d'avoir combattu. C'est le seul lien que je trouve avec le exterminate, qui n'est pas complet. On a également devant nous comme une console pour diriger notre civilisation.
Mmh. C'est le terme qui est utilisé dans console dans le jeu, non ?
Alors, je n'ai pas la version française, je ne sais pas comment ils l'appellent en français.
Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ouais. J'ai un petit doute, mais ouais,
c'est possible.
Mais console, quoi.
En tout cas, ça y ressemble beaucoup. C'est un tableau individuel et on a toutes nos actions disponibles. Marqué dessus, on a notre stock de ressources, on a notre tableau de développement de capacité, là où on posera nos cartes de couleurs en colonne, qui coûteront d'ailleurs en fonction de la hauteur sur la console où elles sont placées. Donc vraiment, ça ressemble à... Oui, une console, c'est le bon terme. Oui,
ça fait tableau de bord un peu, hein. ou tableau de bord un peu, ça fait...
tableau de bord, ouais.
C'est le côté un peu comme si on était dans un jeu vidéo, effectivement, c'est le côté simulation, toi que t'expliquais dans le thème, on est des étudiants de Dieu, on est en train de passer notre examen, donc c'est un peu comme si on était en train de jouer à un jeu vidéo qui est un jeu de société, qui simule, hein, enfin bref, la mise en abyme est un peu...
Ouais, t'as tout devant toi et tu vas diriger ton peuple, tes peuples. Le jeu va être très scripté. Hein. Au début, c'est étape par étape. On te pose le décor. Alors, d'abord, en premier, tu découvres l'évolution du climat pour la Manche. Puis ensuite, tu découvres l'objectif de la Manche. Puis ensuite, tu prends une ressource. Donc là, tu es très guidé au départ. Et d'un coup, le jeu te lâche dans une phase qui est bac à sable, où tout devient possible. Et là, on va donc chacun à notre tour dépenser nos dés, utiliser nos dés par paire. Et ensuite, une fois qu'on a déclenché la fin de cette phase... On va tomber sur des étapes de scoring, de le fait de nourrir nos peuples et une sorte de refresh. Et on est reparti comme ça. On fait ça 4 fois. Il y a 4 R, 4 manches. Donc voilà, c'est marrant ce lâcher prise d'un coup. Mmh. Ce jeu, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que dès la première partie, il m'a donné une vraie claque ludique, de par son réalisme. Tu vois, j'ai cette sensation de devoir faire des choix stratégiques de développement pour ma civilisation, certes en mode tableur Excel, mais hyper réaliste. Je le trouve très immersif. Je vais te donner quelques exemples. Si je me déplace dans une nouvelle région, je quitte l'ancienne. J'y serai donc plus, et je pourrai plus l'exploiter. Donc je me pose la question de, est-ce que je dois d'abord procréer pour laisser une partie de ma tribu sur place ? Quand j'arrive dans une nouvelle région, c'est un nouveau terrain. Et le premier arrivé, il va sonder le sol et il va découvrir la richesse naturelle de ce terrain-là. Hop, mode découverte. Si je fais un bateau, ça va me donner accès à tout le lac. Alors je vais pouvoir traverser en utilisant mon bateau, je vais pouvoir aller plus loin qu'en me déplaçant, en marchant, juste dans les régions adjacentes. Quand je suis dans une région, je peux explorer, il y a des lieux qui sont autour. Et si j'ai réussi à améliorer ma tuile d'action, j'ai découvert la longue vue. Et donc, je vois plus loin. Et je peux repérer loin sur la carte, par exemple, une grotte ou un volcan. Si je suis à côté d'un volcan, je ne peux pas construire de maison. Ou pire, elle est détruite parce qu'il y a une éruption. Et puis, même sur les cartes, il y a une vraie cohérence au niveau des cartes. Par exemple, en fonction de ma résistance physique, si j'ai deux capacités cardiaques, il y a deux petits symboles de cœur, je peux poser la carte fourrure. Et à partir de maintenant... Mes tribus, elles marqueront des points si le temps est froid ou pluvieux, parce qu'elles sont justement bien protégées. Et je trouve que chaque élément, comme ça, a une vraie cohérence, un vrai réalisme de ce que font les peuples.
Ouais, il y a un côté un peu simulation poussée à l'extrême, en fait. Une volonté, comme tu dis, de réalisme tellement poussée que chaque micro-truc est un truc particulier qui a sa logique. Enfin, tu l'as bien décrit avec plein d'exemples, hein, je ne vais pas en rajouter. Mais voilà, tout est dans une logique tout à fait claire et nette, mais avec chaque truc qui est très particulier. En fait. C'est vraiment... Il y a 8 milliards de trucs qui sont réalistes et du coup ont chacun leur petit truc. Quoi. C'est, faut comprendre que ce n'est pas un réalisme global. Comment dire, c'est pas une dynamique réaliste. C'est plein de petits trucs qui sont réalistes et qui forment un... moi, je qualifiais le jeu de jeu monde. En fait, c'est un peu comme s'il avait voulu faire son jeu qui représente un peu le monde. Et du coup, bah, il y a plein de petits trucs. Il y a tout dedans et tout est réaliste.
Ouais. Tout est réaliste, mais il n'y a pas d'histoire de temporalité, c'est-à-dire on ne crée pas des âges, l'âge de Cro-Magnon, puis l'âge de la Renaissance, puis enfin Moyen-Âge, Renaissance, etc. Il n'y a pas cette temporalité-là, c'est-à-dire que tout peut exister, la fourrure des cavernes ou la lunette astronomique. Voilà, on peut avoir les deux sur deux cartes côte à côte.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne remarque, parce que dans beaucoup de jeux de civilisation, il y a ce découpage en air pour reproduire justement cette réalité qu'on connaît, historique, d'un phasage dans les découvertes. Et là, il n'y a pas ça, c'est beaucoup plus libre à ce niveau-là. Ouais.
Un sentiment très fort également qu'on va trouver dans le jeu, c'est un sentiment de frustration. C'est un jeu qui est très riche en choix, mais aussi en chaos. En fait, on voudrait essayer certaines pistes de développement, mais l'aléatoire des dés, des cartes, des ressources qu'on voudrait mais qui ne sont pas encore disponibles, du climat qui est changeant, qui va certainement perturber nos plans, l'aléatoire des zones sur le terrain qui peuvent être à notre désavantage. Ça va créer de la frustration.
Ouais, et il y a un truc sur lequel, que tu as expliqué, mais je suis pas sûr parce qu'on le capte bien quand on n'a pas joué au jeu. En fait, les actions, il faut comprendre que les appareillements de dés, un appareillement donne une seule action possible. Et cette action-là, elle ne peut pas être faite non plus avec un autre appareil, enfin je sais pas comment vous le dire, mais en gros c'est vice versa, c'est vraiment ultra spécifique quoi. Si je mets le 1 et le 2, je peux faire que, je sais plus quelle est l'action, mais je crois que c'est rechercher des cartes, quoi, c'est ça,
je sais plus, ouais, je crois, ouais.
Ouais, c'est rechercher des cartes, je peux faire que ça avec un 1 et un 2, il y a pas d'autre solution. Et si je veux piocher des cartes, en gros, bah, j'ai que en faisant 1 et 2. Voilà, là j'exagère peut-être, il y a peut-être parfois des petits trucs, machin, et c'est ultra spécifique tout le temps. Donc c'est aussi pour ça du coup que c'est frustrant, parce que des fois t'aurais envie de faire un truc, juste t'as pas les dés en fait, donc cherche même pas, tu dis juste tu peux pas.
Je suis pas tout à fait
d'accord. On va revenir après sur la flexibilité qu'offre le jeu, tu vois, mais en gros c'est quand même du coup il y a, je sais plus combien, il y a 11 actions du coup.
Oh, il y a une quinzaine d'actions, de 15 actions, plus 6 actions de développement de capacité. Il y a une bonne vingtaine de combinaisons de dés qui existent, qui donnent des choix différents. Donc, dans un grand pool de dés, on a beaucoup de choix, et puis notre pool s'épuise petit à petit, et on en aura moins pour la fin de ce tour-là. Comme on a beaucoup de dés, on a évidemment beaucoup d'aléatoires. D'ailleurs, on a de l'aléatoire supplémentaire sur des actions où on va relancer des dés particuliers. Par exemple, quand on part à la pêche, en fonction de son jet de dés, on aura plus ou moins de réussite. Est-ce qu'on aura beaucoup de poissons? Ça dépend d'un petit dé. Bon, ça fait clairement grincer des dents, mais en fait, c'est hyper réaliste. Va demander aux pêcheurs, et ben, y a des jours où la pêche est bonne, et puis il y a des jours où ils rentrent bredouille.
Ouais, complètement.
Je trouve quand même que le jeu permet de compenser une partie de cet aléatoire, mais ça peut coûter très cher en temps et en ressources. En fait, ça rajoute du choix de jusqu'où on est prêt à aller pour suivre sa stratégie initiale, ou au contraire, changer sa stratégie.
Ouais, je trouve que bizarrement, t'as des trucs de flexibilité, t'en as même plus que dans les châteaux de Bourgogne, par exemple. Bah, je prends des points de comparaison que j'ai, hein, parce que moi j'ai joué à beaucoup moins de fêtes que toi. Hein. Mais dans les châteaux de Bourgogne, je trouve que t'as moins de. Tu sais, t'as les ouvriers là qui te permettent de faire plus un moins un sur un dé.
Tout à fait.
Donc t'as un truc similaire là, typiquement, là, dans Civolution, que t'as finalement plus souvent, je trouve, que les ouvriers dans Château de Bourgogne. Et en plus, dans Civolution, t'as un autre truc. T'as les focus qui, en gros, c'est carrément. Ça, c'est un dé de la valeur que tu veux. Donc t'as plus d'options. De souplesse, mais je trouve qu'on se sent quand même plus contraint dans Civolution alors que dans les châteaux de Bourgogne typiquement. C'est assez paradoxal. Je pense que c'est quand même lié justement au fait que les actions elles sont quand même ultra spécifiques, et donc du coup même si t'as plus de souplesse autorisée et plus de foi des pions type ouvrier, bah en fait potentiellement tu pourras en avoir besoin plus souvent quoi.
Et du coup, ça va être une question de tempo, parce que sur le principe, tu peux faire tout ce que tu veux, hein, mais ça va être une question de temps pour y accéder. C'est combien de types ouvriers tu vas aller chercher, combien de focus tu vas aller récupérer, mais ça te fait sacrifier d'autres dés pour faire ça. Donc justement, ça me mène au point, à cette sensation que j'adore, moi, c'est cette sensation de devoir s'adapter sans cesse. Tu dois t'adapter à tes dés, t'adapter au tempo, t'adapter aux ressources découvertes, t'adapter aux cartes qui sont disponibles, s'adapter à la map par où tu peux passer, t'adapter au scoring de la manche. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est opportuniste, mais je pense quand même qu'il y a quelques coups à ne pas louper. Une carte qui nous intéresse, ou aller à la chasse avant les autres, dans un terrain où on est sûr de trouver de la nourriture, ou faire une exploration avant les autres et que les points soient partis chez eux. Je pense qu'il y a des choses quand même à faire.
Mmh. Ouais, moi, je parle quand même d'opportunisme, parce que t'es quand même... après, on n'a peut-être pas exactement la même définition de l'opportunisme, mais t'as quand même des chemins qui s'ouvrent ou qui se ferment, tu vois. T'as des moments où vraiment t'as prévu un truc, ben en fait, tu peux pas. Donc du coup, tu te rabats sur autre chose, quoi, tu vois. Moi, je prends ça pour de l'opportunisme. Et après, dans ce autre chose, en fait, t'as malgré tout un choix. Tu pourrais dire, bah, ok, je peux pas faire l'option 1 que j'avais prévue. Bon, j'ai l'option 2, l'option 3... et là effectivement tu dis bon bah ok, l'option 2 elle paraît quand même meilleure vis-à-vis de et c'est là que est-ce que c'est vis-à-vis de bloquer l'ANA c'est vis-à-vis de ok, ce que j'ai prévu de faire quand même plus tard, pour moi c'est quand même de l'opportunisme.
Ouais, en fait tu peux faire, mais peut-être pas dans le tempo que tu avais prévu, et l'opportunisme en effet va jouer sur le tempo, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a assez peu d'interactions dans ce jeu, on ne se gêne pas vraiment sur la map. Comme je disais, on ne s'extermine pas, et la map est tellement grande qu'on peut prendre des directions différentes et pas croiser les autres joueurs. L'interaction, en fait, elle est pour moi dans le tempo des actions et dans l'avancée de la phase. Parce qu'au bout de X resets, en fonction des joueurs, on va déclencher la fin de l'ère. Et en fait, cette phase d'action... il y a possibilité de la faire durer. On a une action, par exemple, qui rajoute des équivalents de dés pour faire des actions supplémentaires. Ça peut ouvrir plus de possibilités, plus d'actions à réaliser. Mais en fait, si les autres joueurs ne suivent pas cette stratégie, pour toi, ça va être du temps perdu. Ça ne va pas être efficace. Les autres, ils peuvent rusher un peu en faisant des resets souvent et ils déclenchent la fin de manche sans que toi, tu aies pu développer tout ce que tu voulais faire.
Quand tu dis l'action qui donne des équivalents de dés, enfin, c'est l'action qui fait effectivement gagner les dés d'action dont tu parles, ou c'est autre chose?
Tu en as plusieurs. Soit tu as une action focus qui donne un dé de joker et qui a la valeur que tu voudras quand on aura besoin. Il y a aussi une autre action qui te donne deux ou trois, si elle est développée, pions qui représentent des dés. Et là, tu leur affectes une valeur immédiatement, oui, quand tu les reçois.
Je n'ai pas utilisé celle-là.
C'est pour ça. Ouais,
je revois. Ouais. Ouais. Puis, il y a aussi un point d'interaction sur justement cette action qui te permet de gagner des dés. C'est quand il n'y en a plus, tu vas les piquer quand même chez celui qui en a le plus, quoi. Bon, ouais, mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup d'interactions dans le jeu. Oui, c'est quand même, t'es plus, quand même vachement focalisé sur ce que tu fais. Après, il faut que tu fasses quand même attention effectivement au tempo que les autres sont en train d'imprimer éventuellement, s'ils ne sont pas dans le tien. Est-ce que potentiellement ils pourraient venir me piquer, se déplacer dans une région avant moi, genre des choses. Hein, oui, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. C'est pas forcément évident à suivre, parce que il y a quand même tellement d'options possibles dans le jeu que. Le mieux, c'est de demander, hein, tu vas aller là dans la région là ou pas?
Je peux essayer. Moi, c'est un jeu également qui me donne le sentiment de ne pas voir le temps passer. Le jeu, il va durer des heures, et pourtant, j'ai ce sentiment de fluidité. Quand arrive mon tour, j'ai déjà eu le temps de réfléchir aux actions que je pouvais réaliser. Alors, au début, on a beaucoup de dés. Ça peut créer de l'analysis paralysis. Mais ça va se délayer au fur et à mesure jusqu'au prochain refresh où on relance son pool de dés et que de nouveau, on va devoir se retriturer un peu le cerveau pour combiner au mieux les actions qu'on veut faire.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi qui suis sujet à l'analyse paralysis, hein, moi j'en ai quand même souffert. Il y a une raison, je pense, qui est du fait du jeu, malgré tout, parce qu'après, il y a évidemment plein de jeux dans lesquels je ne fais pas d'AP. Donc je pense qu'il y a il y a quand même les options de souplesse qu'on expliquait rapidement, qui te permettent quand même de dire, ok, j'ai ce jet-là, mais je peux m'adapter avec ça. Du coup, est-ce que je l'utilise, est-ce que je ne l'utilise pas? Effectivement, il y a le début de phase, enfin, je ne sais pas comment dire, de phase, de, effectivement, quand tu as reset TD, forcément, tu as beaucoup d'options, et donc tu essaies de recréer un chemin. d'action. Tu vois, en gros, tu as trois actions à peu près, on va dire, en moyenne devant toi. Donc, tu essaies de voir un peu ce que tu vas faire avec tes dés dans ces trois actions. Puis, il y a le facteur première partie. Moi, j'ai fait qu'une seule partie hein, du jeu, du coup. Et donc, c'est sûr que dans une première partie, il y a tellement d'options possibles que tu es un peu paumé. Et malgré tout, j'étais quand même en mode je cherche la solution à mon problème. Qui parfois en fait n'existait pas. Il y a ce moment où il faut accepter en fait que dans le jeu, bah t'as des options qui se ferment en fait. Et du coup, faut peut-être pas toujours chercher à aller forcer quand même à aller dans cette option-là parce que bah l'option finalement elle t'est fermée. Alors, peut-être tu vas réussir à faire la première des deux actions que t'avais prévues grâce à la souplesse que t'offre le jeu, mais en fait tu pourras pas faire la deuxième quand même. Donc du coup, ça sert quand même un peu à rien. Il vaut mieux peut-être se rabattre sur aller suivre le chemin que le jeu essaie de t'ouvrir finalement. Que d'essayer de forcer sur la route que tu voulais prendre, quoi. Bon.
Ouais, d'où ce fait de s'adapter sans
Ouais,
cesse, en
voilà. Et
effet.
toi, c'est plus ton style, donc du coup, tu arrives plus facilement à le faire que moi qui suis plus dans un style où je vais essayer de chercher quand même à prendre ma route, quoi. Et du coup, ouais, des gens comme toi, ils vont pas souffrir d'AP, ça va pas leur poser de problème, ils vont suivre, ils vont couler un peu, alors que des gens comme moi, peut-être un peu moins. Voilà.
Ce que j'ai trouvé très cool aussi dans le jeu, c'est qu'il apporte des récompenses. Par exemple, à chaque fois qu'on va valider un objectif, on améliore une tuile. On va devenir donc plus fort sur un type d'action. Quand on place des cartes devant sa console, si on arrive à finir une ligne, on va gagner des revenus supplémentaires. Quand on se développe sur la piste de progrès, en fonction du palier atteint, on va améliorer une tuile ou gagner des points ou des bonus. Bon, c'est très très plaisant. Bon, c'est vrai que ça n'arrive pas si souvent que ça. En revanche, et c'est moins cool, la mise en place, elle est un peu fastidieuse. Malgré les boîtes et les plateaux qui existent hein, pour chacun des joueurs, la création de la map et la constitution de la main de départ, c'est un peu long. Mais en fait, ça a un tel impact sur le jeu qu'il faut quand même vraiment prendre le temps de le faire. Ça fait partie de la partie.
Ouais, tu t'estimes à combien de temps la mise en place?
Oh, c'est plus d'une demi-heure. Hein.
Ouais, quand
C'est...
même.
Ouais.
Ouais. Ah, non,
Ouais.
enfin, pour rien cacher aux auditeurs auditrices, moi du coup la partie qu'on a faite, on l'a faite sur Tabletop Simulator, qui est donc c'est une version pas légale, hein, on va pas se le cacher. Enfin, je crois pas. Donc effectivement la mise en place a été faite. Après, ça explique aussi le temps de partie où on rigolait au début, hein, tu sais, quand t'as dit 3 heures max, ouais, ça ralentit aussi les temps de partie hein, sur des outils comme ça, c'est plus long, et effectivement là, on a dépassé les 4 heures, quoi. Mais je pense que c'était plus lié au support que vraiment au jeu, quoi. Et d'accord, ouais, donc du coup la mise en place, ouais, une demi-heure, ouais. Ouais, ça pique un peu.
Ouais. Ouais, parce que tu constitues complètement la map, tu places chaque lieu de façon aléatoire, tu dois distribuer des cartes de chaque type à tout le monde. Il faut ensuite, sur la version, puisqu'il existe une variante débutant où il y a des pools de cartes qui sont déjà créées. Et du coup, ça t'oriente vachement parce que les cartes vont bien ensemble. Ça se combine bien, tu vas pouvoir axer ta stratégie pour les premières parties, mais sur les parties classiques, tu es censé choisir parmi X cartes. Je me demande s'il n'y a pas même du draft. Donc ça prend encore plus de temps de se préparer.
Effectivement.
Voilà, faut prendre le temps. Ce jeu-là nécessite du temps devant soi, de l'investissement. On ne crée pas une civilisation comme
C'est
ça aussi.
vrai, c'est vrai.
J'ai cherché un petit peu à le comparer avec d'autres jeux, à quoi ça me faisait penser. C'était pas si simple. J'ai d'abord pensé aux jeux très très à l'allemande des années 80, où tu as un script bien défini. D'abord tu fais ça, puis ça, puis ça. Par exemple, Die Maurer ou Scylla. Après, c'est un jeu où il y a énormément de ressources possibles. Et là, on m'a parlé de À la gloire d'Odin. Alors, à la gloire d'Odin, il y a les tokens pour chacune des différentes ressources, alors que dans Civolution, on place un cube en bois, un petit baril en bois, dans la case qui correspond à cette ressource. C'est plus facile à gérer.
Ouais, moi je. Alors, enfin, je fais partie des gens qui ont cité à la gloire d'Odin. En fait, c'est plus pour le côté ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le jeu monde vu par un auteur. Je décrirais ça comme le what if de l'auteur, tu vois. Si le what if de l'auteur qui se dit, et si je faisais un jeu dans lequel j'avais pas de limite? et dans lequel je vais représenter la civilisation humaine en fait quelque part, tu vois. J'ai pas de limite jusqu'où je vais et tu vois pour moi c'est clairement le what if le what if j'ai carte blanche je peux aller où je veux de Feld. Et comme la gloire d'Odin, c'est un peu pour moi le truc OK, vas-y, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux de Uwe Rosenberg. Ouais. C'est plus dans cette dynamique-là, toi, dans cet aspect-là.
Ok. Eh ben, en fait, ça m'a vraiment fait penser, comme toi, à des mondes ouverts. Et du coup, je rejoins les jeux vidéo. Tu vois, les jeux du type Zelda Breath of the Wild, où c'est ouvert. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Eh ben, moi, ça me fait vachement penser à ça. Il n'y a pas de limite. Tu fais tout ce que tu veux.
Ouais.
Et puis... Ça me fait aussi penser au vieux jeu PC Civilization, mais qui lui était scripté avec les différents âges. Et chaque invention que tu faisais te permettait de découvrir la suivante. Alors qu'on n'a pas ça du tout dans Civolution.
Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas l'arbre de technologie, en fait.
C'est ça.
Mais sinon, oui, c'est complètement ça. Je suis d'accord. Ça a un côté très Civilization, pardon. J'ai dit Civolution. Un côté très Civilization. Ouais. Ah, le côté un peu le côté guerrier en moi aussi. Mais voilà, mais c'est
vrai.
C'est un peu le civilisation vu par Feld, tu vois. C'est comment il se l'approprie cette vision de la civilisation humaine hein, qui investit la terre quoi.
Et une fois de plus Feld a tenté un nouveau style de jeu.
Ah oui, et alors du coup dans la production de Feld justement, tu le rapprochais de quel jeu?
Bah, comme il a l'habitude de tester des nouvelles choses, c'est pas si simple de le rapprocher à d'autres jeux. Alors, peut-être pour le côté contrainte 2D, on peut le citer Bora Bora ou It Happens, puisque tu es contraint vraiment sur ta pose 2D.
D'accord.
Et pour le côté contrainte dans le jeu, parce que tu te bats un peu quand même contre le jeu et son hasard, bah là, je le rapprocherai presque de l'année du dragon qui contraint très très fort les joueurs.
Ouais, là, c'est la contrainte à l'extrême. Parce que là, tu joues presque à l'envers. Tu joues pour pas perdre des points dans la nuit du dragon. Ouais, ok. Après, je connais pas Bora Bora et It Happens.
T'as beaucoup de contraintes sur la pose de dés qui vont te permettre certaines actions. It Happens, c'est vraiment du placement de dés.
Ouais, plus que dans Château de Bourgogne, pour le coup, Bora Bora, là, les contraintes.
Oui, c'est encore plus contraint, Bora Bora, oui.
Voilà, ok. Donc, je comprends du coup pourquoi tu le rapproches de Bora Bora. Parce que tu vois, moi, j'avais fait du coup un rapprochement un peu simple avec Château de Bourgogne, parce que je le connais. Et j'expliquais que je trouvais que les contraintes étaient moins fortes. Enfin, effectivement, on ressentait moins la contrainte dans Château de Bourgogne que dans Civolution. Et du coup, je comprends Bora Bora et entre les deux, quoi, c'est ça?
Ah oui.
Ouais, ok.
D'accord. Oui, tu as vraiment une histoire de tempo et de valeur de dés que tu ne peux mettre que en fonction de ce que les autres ont pu poser. Donc, des vraies grosses contraintes sur Bora Bora.
D'accord.
T'es parlé de ce jeu très riche en action, je t'ai pas parlé du matériel. C'est également un jeu très opulent, on va dire.
Bon, on imagine.
Quand on ouvre la boîte, hein, on trouve beaucoup de choses. Alors, c'est une boîte pas si grosse que ça et elle contient vraiment beaucoup de choses, bien rangées. Elle contient toute la constitution de la map, hein, des régions, des lieux, un énorme tableau individuel. Notre console, des dés, des tuiles, des paquets de cartes qui ont des orientations différentes. Donc, plein de types de cartes. Des meeples, des marqueurs de ressources. Enfin, il y en a au large. Je me suis dit, ce jeu-là, il contient tout ce qu'un jeu peut contenir. Alors, des fois, on n'a que des jeux de cartes, on n'a que des jeux de dés. Bah, lui, il a tout d'un coup. Il a tout mis dedans.
Il n'y a pas de figurines en plastique.
Pas en plastique. Mais on a des petits meeples en bois.
Ouais, des meeples en bois.
Et ouais. Je trouve vraiment que l'édition est très bien faite. On a dans le jeu de base des boîtes par joueur, des rangements pour chaque élément, des séparateurs de cartes parce qu'elles sont nombreuses. Et en plus de la règle de 40 pages, on a 4 aides de jeu. Alors, elles font 8 pages hein, chacune.
Aides de jeu.
Le livret d'aides de jeu. Ouais. C'est vraiment copieux, non, c'est vrai. Par exemple, au niveau ergonomique, ils ont pensé à mettre... On a des pions circulaires qui doivent s'empiler les uns les autres sur des pistes. Ben, ils l'ont fait de façon bombée, de façon à ce qu'ils puissent s'empiler sans tomber. Enfin, des choses bêtes et c'est intelligent. C'est pas compliqué et ça marche super bien. Un petit regret néanmoins sur les dés. Les dés sont vraiment très petits et même les icônes des ressources sur le grand tableau individuel, ça fait petit. Il y a tellement de choses à regarder que ça peut paraître un peu petit.
Ouais, c'est dommage pour un jeu de dés. Ouais. Mais bon, comme il y en a une palanquée, j'imagine, du coup, dans le jeu,
Une jolie brouette,
on peut tirer un peu là-dessus pour les coups. Quoi.
Certainement. Tu m'avais également fait la réflexion, Cyrus, qu'il n'y avait pas de couleur verte pour les joueurs. Alors, en fait, je pense que l'ergonomie, elle a même été réfléchie jusqu'aux couleurs pour être différenciée des daltoniens.
Ouais, non, mais bon, c'était plus une remarque de fétichiste, hein, j'avoue, mais je comprends tout à fait le point daltonien. Oui. J'ai oublié de me résigner. Il y aura peut-être bientôt plus de vert pour les joueurs et joueuses.
Ah. On va t'acheter des pots de peinture. Alors moi j'ai la version anglaise de chez Pegasus Deep Print. Je pense que Matago n'a pas changé l'ergonomie.
J'ai vu
sur internet par contre qu'il y avait quelques petits loupés dans les textes de la version française, des mots en double ou des mots qui manquaient sur quelques cartes. Je trouve ça particulièrement dommage, d'autant plus que Matago, c'est un reproche qu'il leur est fait souvent. Faut vraiment qu'ils vérifient ça.
Ils vont encore
se faire tacler sur. Voilà, c'est dommage.
Ouais.
Dans le jeu, il existe une version solo, puisqu'il est dit qu'on peut y jouer de 1 à 4 joueurs. Alors, de mon côté, j'y ai pas joué. Et je pense d'ailleurs que j'y jouerai pas en solo. Je m'imagine pas déballer tout ce gros matériel énorme pour y passer 2 heures toute seule. En revanche, ça m'intéresse d'avoir un retour de vous, les auditeurs. Si vous y avez joué, dites-moi si je me trompe et que je devrais consacrer un peu de temps à l'essayer. Ça m'intéresse.
Je pense que ça doit être un bon jeu en solo. Hein. Je suis pas du tout pratiquant du jeu solo, mais je me dis que en fait il y a quand même beaucoup de voies stratégiques que tu peux explorer. Il y a tellement de choses différentes que du coup là il y a pas énormément d'interactions, on l'a dit. Donc je pense que ça doit bien s'y prêter. Après je comprends le vas-y, je vais pas me taper une demi-heure de préparation du jeu pour Pour moi, c'est le genre de jeu, ça pourrait être le jeu d'une vie, tu vois. Tu pourrais y jouer tout le temps. Il y a tellement de trucs à faire. Tu pourrais, si tu avais l'installation pour chez toi, tu as une table, tu sais, ces fameuses magnifiques tables de jeu là, dans lesquelles tu peux remettre les planches par-dessus pour dîner. Finalement, tu pourrais l'avoir en dessous et puis le sort, tu aurais la mise en place un peu facilitée, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps là de faire des parties solo. Enfin, à moins que si dans nos éditeurs et auditrices, il doit y avoir des gens qui ont la version anglaise comme toi. Hein. Ouais, faites-nous un retour.
Bon, je vais conclure quand même. Vous l'aurez entendu. Hein, moi, j'ai un sentiment très très positif sur ce jeu. C'est un jeu pour moi hyper cohérent avec des possibilités infinies de développement. C'est un jeu qui demande d'y retourner, de tenter des nouveaux axes, de redécouvrir encore et encore. Et pourtant, il amène cette frustration qui fait qu'on se bat autant contre les autres que contre le jeu. On a la chance également que ça soit pas un jeu à 150 balles comme dans la City Collection, et pour un jeu de Feld, très bon. Par rapport à tout le matériel, là il est à 85-90, et ben franchement, ça les vaut. Moi j'en suis déjà, j'en ai fait déjà pas mal de parties. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Enfin, voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir, à essayer. Voilà, moi, je suis conquise complètement.
Ouais, bah écoute, moi, je suis partant dans une autre partie en vrai, hein, pour le coup. Pourtant, moi, je suis pas un Feldboy. Hein. C'est pas trop ma cam à la base. Mais tu vois, le côté sans limite, ça me fascine. Voilà, ce côté monde ouvert, moi j'ai beaucoup aimé des jeux comme Civilization, Colonisation à l'époque, même si le thème, c'est pas ouf. Je parle des jeux vidéo. C'est des trucs, tu vois, ça m'a toujours fasciné, la transposition en jeu de société, ce que ça pouvait donner. J'ai jamais joué à Archipelago, mais je pense que c'est un peu ce genre de jeu aussi. J'ai essayé des jeux bac à sable qui sont pas dans le même thème du coup. J'ai essayé Xia, Legend of Drift System. J'ai essayé aussi Western Legend. Et toi, j'en suis pas ressorti vraiment grisé de ces jeux-là. Ça m'a pas donné envie d'y retourner. Toi, dans ces jeux-là, effectivement, tu peux faire un truc dans une partie, puis dire je vais faire autre chose dans une autre. Mais en fait, ça m'a pas donné envie d'aller faire une autre partie pour aller faire autre chose, tu vois. Alors que là, oui, Pour le coup, j'aurais envie d'y rejouer pour essayer un peu d'autres trucs, ou pas forcément essayer d'autres trucs, mais les faire un peu différemment. Après, moi, bon, j'ai quand même des reproches, moi, à mon niveau, hein, c'est que je trouve qu'il y a un manque de développement pour moi. Moi, j'aime beaucoup la sensation, toi, de montée en puissance, de développement, que j'ai pas trouvé dans ce jeu-là. C'est pas ce qu'il cherche à faire, hein. J'ai pas l'impression, toi, de mettre en place un moteur.
Légèrement.
Ouais, mais tu vois, c'est à la toute fin, et puis il y a pas. Moi, j'aime vraiment le côté où ça s'emballe, quoi, tu vois. Et là, y a pas trop ça. Et même, alors peut-être aussi parce que je jouais pas bien, hein, j'en sais rien, mais j'ai pas. Parce qu'au fait, il aime bien aller mettre, tu sais, des petites récompenses à gauche, à droite, tu vois. Et
Ouais.
je trouvais qu'il n'y en avait pas autant que dans la plupart de ces jeux. Là-dessus, je l'ai trouvé peut-être un peu moins fort là-dessus sur Civolution.
D'une partie à l'autre, ça se passe pas de la même façon.
Ouais.
Dans notre partie, celle qu'on a fait ensemble, on a très peu validé d'objectifs, ce qui en fait te permet de devenir de plus en plus puissant sur
Ouais.
certaines actions. Et vous avez peu créé de cartes de votre côté, ce qui te permet de déclencher également des choses. On a fait peu de constructions qui te donnent également des petits bonus, et ça peut s'enchaîner là-dessus. Alors, c'est pas du moteur à fond, c'est pas de la F1, mais ça crée quand même de la puissance supplémentaire qu'on n'a pas eu dans la partie qu'on a fait.
Ouais, bah voilà, il en faudra une autre, hein. C'est sûr,
Et
c'est
voilà,
sûr.
vendu.
Voilà. Mais enfin voilà. En tout cas, moi, pour moi, il y a de la place pour un jeu qui ferait ça dans ce style-là, tu vois, dans ce style jeu complètement ouvert. Du coup, là, si tu m'entends, Tom Lehman, je pense que t'es l'homme de la situation. Vas-y, fais-toi plaisir, fais aussi ton what if, si j'avais carte blanche que je pouvais faire, c'est quoi le monde selon Tom Lehman, vas-y, vas-y.
Bon, on fera la traduction pour lui exprès après.
Ah. Mais ouais, non, belle découverte, je te remercie du coup du temps que t'as consacré à notre partie, qu'on a partagé avec Flavien d'ailleurs.
C'est un plaisir, on fera la revanche. Donc voilà, c'est Civolution, un jeu de Stefan Feld, illustré par Dennis Lohausen, édité chez Deep Ring Games et Pegasus Spiel, localisé chez Matago. Pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties de 90 à 180 minutes, qui est disponible chez notre sponsor La Caverne du Gobelin au prix de 85,90 €. Et toi, Cyrus, tu nous parles de Sengoku, province en guerre?
Eh oui, allez, c'est parti. Alors, donc, on va parler maintenant de Sengoku, Province en guerre, qui est également appelé Rumble Nation dans sa version d'origine. Donc, c'est un jeu de Yugi Shinichi, illustré par Yamamoto Masaki. C'est édité chez alors 77 Spiele, donc du coup ça devrait sûrement se prononcer Sieben Siebzig Spiele et Obi Japan, c'était une coédition. Mais alors je crois qu'en réalité le Sieben Siebzig Spiele, je crois que j'ai l'impression que c'est quand même un éditeur japonais.
Ah bon?
Enfin, ouais, je crois. Ouais. Je pense que c'est. Ils doivent bien aimer, tu sais, faire des références comme ça. Hein,
Un
bref.
gros spileux.
Donc, à la version française, a priori, elle est réalisée par Obi Japan eux-mêmes. Voilà. Donc, ils ont dû trouver simplement un traducteur. Et c'est distribué par Novalis en France, si je ne me trompe pas. C'est pour 2 à 4 joueurs et joueuses. C'est recommandé à partir de 10 ans. Ils annoncent des parties de 20 à 40 minutes. Alors. Maintenant, c'est le moment d'expliquer à quel point on est détruant. Donc, le jeu n'est pas encore disponible à la Caverne du Gobelin. Et en fait, il ne le sera peut-être pas non plus à la sortie de l'émission. Parce que malheureusement, quand on a programmé l'émission, le jeu devait sortir le jour même. Et il semblerait qu'il soit décalé. Donc, c'est possible que ce soit finalement pas le jeu du mois, mais le jeu du mois prochain. Excusez-nous, c'était pas fait exprès, voilà, on vous jure. Bon, là, maintenant que c'était programmé et que, a priori, alors on espère juste que c'est pas reporté à dans 6 mois parce que bon, là, ce serait quand même vraiment ballot. Mais bon, voilà. Donc, alors oui, j'expliquais le jeu. Moi, j'ai une autre version, j'ai la version qui s'appelle Rumble Nation, qui était une version française et italienne, je crois, propulsée par un éditeur bah, italien, a priori. Et le jeu, lui, il est paru à la base en 2017 au Japon. D'ailleurs, il y a eu un. C'était quoi le. Game Market 2028, je ne sais pas de quel Game Market, il a eu un prix. Donc c'est quand même un jeu du coup, ouais, qui a dû faire du bruit au Japon et qui a mis quand même du temps à arriver chez nous, parce que là on est quand même en 2025, je ne me trompe pas, je parle de 2018 quand même. Et c'est un jeu qui a été mis en avant par le passe-temps, donc le rendre à César ce qui est à César, parce qu'on aime bien nous aller à Essen et puis faire un peu les pionniers, et puis bah, des fois il y en a d'autres qui le font. Et là c'est le passe-temps qu'il avait en stock, et bah, le jeu en fait m'a été offert par 4 pions de 3, voilà, parce que c'est une amie. Et donc chapeau quand même, parce que déjà pour offrir un jeu à quelqu'un qui joue à beaucoup de jeux et qui en a beaucoup chez lui, faut y arriver quand même pour que ça tombe pas dans le, comment dire, dans des jeux que j'ai déjà. Là, chapeau, elle avait bien. Et doublement chapeau, parce que bah, je suis en train de vous en parler dans un jeu du mois, donc c'est que le jeu m'a vraiment extrêmement plu.
Tu as une version anglaise ?
Non, c'est italien et français dedans.
Ah ouais,
ouais.
D'accord. C'est fort.
Ouais. Bah, ils l'ont pris en import, en fait, au passe-temps. Ils l'ont vendu comme ça.
Super.
Voilà. Donc, alors effectivement, la boîte n'a pas la même tronche. En fait, la boîte qui va sortir en France, donc qui s'appelle du coup Sengoku Province en guerre, c'est la version deluxe en fait, à la base, si j'ai bien compris, de Rumble Nation. Du coup, la boîte est plus grande, le matériel n'est pas exactement le même à l'intérieur, mais c'est très très proche, les illustrations sont les mêmes. C'est juste que les pions sont pas pareils. Moi, j'ai des petits cubes et c'est représenté vraiment à des vrais soldats avec un casque. Voilà, c'est des meeples, si tu veux, mais qui ont une tête casquée.
De soldats, ouais.
Dans le jeu, voilà. Et puis, il y a plus de 2D. Là, il y a un set 2D dans la version qui va paraître. Là, il y a un set 2D par joueur-joueuse.
Bon,
ça sert à rien parce qu'on se les passe de toute façon, je veux dire, on les lance chacun notre tour. Donc. Mais voilà, c'est le deluxe quoi. Deluxe. Donc, dans ce jeu, alors on a un plateau de jeu qui représente une carte d'une partie du Japon à l'ère Sengoku. Donc, c'est autour de entre 1450 je crois, et 1600. C'est divisé en 11 provinces. Chaque province va valoir des points. Et on va tenter donc de conquérir ces provinces à l'aide de nos 18 soldats par le biais d'un système de majorité et d'un système de lancer de dés en gros. Voilà. Donc on va lancer des dés, se positionner sur la carte et à la fin de la partie, c'est le joueur ou la joueuse qui aura le plus d'unités dans une province qui va remporter les points. Le deuxième aussi ou la deuxième marque la moitié des points en gros de la province. Voilà. Ça c'est les grands principes. C'est un jeu qui s'inscrit vraiment dans la droite lignée des jeux de majorité sur territoire, donc le jeu de conquête majorité, c'est typiquement El Grande, on en a parlé dans Sortons le grand jeu, voilà, petite auto-promo en passant, donc un jeu de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich, 95 je crois c'est. Donc c'est dans le pur canon de El Grande, voilà, il y a des unités sur un territoire, t'en as 4, j'en ai 2, c'est toi qui gagne. Voilà. Et ça va pas chercher plus loin, on s'amuse pas à lancer des dés pour voir qui c'est le plus fort, je sais pas quoi. Et donc le principe, on va avoir des dés qu'on va lancer. Je vous ai dit qu'il y avait 11 provinces. 11 provinces avec des dés, qu'est-ce que ça t'évoque ?
De 2 à 12.
De 2 à 12 exactement. Donc avec 2 dés à 6 faces, ben on fait justement les valeurs qui vont de 2 à 11, puisque c'est les points que vont de 2 à 12 pardon, puisque c'est les points que vont proposer les différentes provinces. Donc il y a une province qui vaut 2, une province qui vaut 3, jusqu'à 12. Mais il y a 3 dés dans le jeu. Et c'est pas juste un dé de rechange. On va lancer les 3 dés et on va en prendre 2 dans ces 3 dés. Donc 2 vont servir à indiquer dans quelle province on va aller et le dernier dé va nous indiquer combien de soldats on met dans cette province. Du coup, c'est soit 1, 2 ou 3 selon la valeur du dé obtenu. Et donc, ça veut dire que, en lançant 3 dés, potentiellement, on a 3 options possibles au max. Et parfois, quand on a déjà un peu moins réussi, on a moins d'options. on a le droit à une relance, voilà, dans le jeu. C'est-à-dire que si j'ai lancé mes 3 dés, que ça ne me plaît pas, je peux faire une relance, mais j'en ai qu'une. Ça.
Et t'es obligé de tout relancer.
Et t'es obligé de tout relancer, oui, effectivement, oui. C'est un point important parce qu'on pourrait tenter de faire des trucs effectivement un peu plus souples.
Je vais garder celui-ci.
Oui, j'aimerais beaucoup me poser dans la province de valeur 2. Je vais garder ce 1. Non, c'est pas possible. Voilà. Tu dois tout relancer. Et là, alors, hormis la partie relance, hein, mais on a un jeu qui s'inscrit pas mal dans la lignée de Las Vegas, le jeu de Rudiger Dorn. Las Vegas, c'est un jeu dans lequel on a tout un pool de dés, on les lance et puis on va choisir une valeur qu'on va placer à un endroit. Donc celui qui est majoritaire, à la fin, il va récolter en fait le plus gros billet. Et donc on a des dynamiques très très similaires avec Las Vegas dans Sengoku. On va essayer aussi de convaincre les autres d'aller plutôt embêter l'autre, tu vois. Hein, là, si tu pouvais plutôt aller embêter Drew, ça m'arrangerait. Tu vois, plutôt que de te poser dans le 7, là, si tu pouvais te poser plutôt dans le 8, ça serait sympa. Évidemment, on va essayer de le présenter mieux que ça. Et ça, c'est totalement des dynamiques qu'on va retrouver dans Las Vegas. Je reviendrai à la comparaison Las Vegas parce qu'il y a d'autres aspects qui sont très proches de Las Vegas, je trouve. Dernier point de. Enfin, pas dernier point de règle, mais il y a un autre point de règle, c'est que avant de lancer mes dés, j'ai une autre option qui s'offre à moi. Je peux jouer une carte tactique. Il y a des cartes en fait qui sont présentées sur la table au début de la partie. Il y en a une de plus que le nombre de joueurs-joueuses. Et je vais pouvoir en utiliser une et une seule dans la partie. Et d'ailleurs, même avant un certain moment du jeu. Et ces options tactiques, bah voilà, c'est des mouvements. Ça fait penser d'ailleurs à des trucs d'El Grande, si je dis pas de bêtises. Ma mémoire est un petit peu floue là-dessus. Ouais, tu confirmes? Hein?
Oui, je confirme.
Il y a des, voilà, c'est des mouvements de troupes en général. Voilà. Mais du coup, des mouvements. On comprend bien que normalement, je lance mes dés, je place des troupes. Voilà, je place des nouvelles troupes de ma réserve. Là, c'est des mouvements. Donc ça permet de faire des trucs un peu sioux. Des fois, ça permet de chasser l'autre aussi. Voilà. Donc là-dessus, il y a un petit tempo parfois à aller trouver pour aller utiliser la bonne carte au bon moment et avant que Lana ne veuille utiliser la carte de Kyo, par exemple. Voilà.
Je trouve que ça porte vachement bien son nom, la carte tactique, parce que c'est vraiment ça. C'est dans le conflit, à quel moment on fait intervenir un revirement de situation par rapport aux troupes, et vraiment c'est l'opportunité que ça va donner.
Ouais.
Je trouve qu'elle porte très très bien son nom.
Ouais, c'est vrai. Et donc enfin dernier grand point de règle. À un moment, on n'aura plus de troupes. C'est le moment où je vais appeler ça, on sort de la partie. Je vais le dire comme ça. Je sais pas, il y avait peut-être un terme dans le jeu, mais je l'ai pas retenu. À ce moment-là, donc on va sortir du jeu. C'est-à-dire qu'on va attendre la fin. Les autres vont continuer à jouer. C'est-à-dire que moi, si je n'ai plus de troupes, j'arrête de jouer. À ce moment-là, les autres n'ont plus l'option de la carte tactique, ça peut être important. Mais si toi, t'as encore 5 troupes et Drew, il en a encore 7, bah, vous allez continuer à jouer. Ça aussi, ça rapproche pas mal le jeu de Las Vegas, parce qu'il y a ce côté où toi, il faut doser notre capacité, notre potentiel à venir sur le terrain. Des fois, on veut rallonger un peu la partie, donc poser une seule troupe pour pas vider sa réserve trop vite, pour avoir encore des solutions. Pour le cas où ben, on vienne m'embêter sur une région sur laquelle je suis confort, je suis présent, mais on pourrait bien me passer devant. Et ça, c'est clairement une dynamique qu'on trouve aussi dans Las Vegas.
Clairement, ouais.
Et cette phase de résolution, là, moi, c'est un truc que je kiffe beaucoup dans le jeu et qui me fait penser à un autre jeu de majorité sur territoire, c'est Québec, qui est peut-être pas très connu. C'est un jeu de Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. Je crois que c'est un jeu de 2011, 2012, je sais plus. Je crois que c'est 2011 et Las Vegas, ça doit être 2012. Québec, toi, on va construire des bâtiments dans des zones de couleur, etc. Et il y a un système de cascade. Et en fait, à un moment, on va avoir des majorités sur des domaines. En gros, ouais. Cherchez pas trop, il y a des majorités, et puis si on est majoritaire à un endroit, en fait, on va cascader une partie de nos cubes qui nous permettent de monter cette majorité dans la zone suivante. Et donc ça va faire un petit peu effet buff, il y a un côté win-to-win, où j'ai gagné un endroit, je bascule une partie de mes troupes, enfin, c'est pas des troupes dans Québec, dans l'autre endroit, qui me permet de le gagner, qui me permet du coup de. Etc. etc. Et la phase de résolution dans Sengoku, bah, en fait, c'est un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire que. On va prendre la province qui vaut le moins de points, donc c'est la province de valeur 2 au départ. On va regarder qui gagne, et le gagnant, il va avoir le droit de mettre deux troupes dans les territoires adjacents dans lesquels il est présent quand même. Et deux troupes, c'est quand même pas mal. C'est pas mal dans le jeu, parce qu'on a quand même 18 soldats à répartir potentiellement dans 11 provinces, je rappelle. Et ces deux troupes, elles n'ont pas besoin d'être présentes dans mon. C'est un peu des troupes magiques, c'est les soldats magiques. Il y a l'argent magique, mais il y a aussi les soldats magiques, tu vois. C'est des gens qui se soulèvent, tu vois, ils sont conquis à ta cause, ils sont là dans la région, ils disent, ah ouais, il est trop bien, lui, en fait, il a gagné à côté, alors vas-y, je vais me battre pour lui. On va dire que c'est ça. Hein. Et donc ça peut faire un effet de cascade comme ça. Et du coup on comprend que la topographie elle est quand même hyper importante, parce que si je gagne le 2 et qu'à côté j'ai le 3, le 4, bah, peut-être que je vais me faire gagner le 3, le 4 qui vont pouvoir me faire cascader dans les autres, etc. etc. Cette configuration là elle est aléatoire. Donc au début de la partie il n'y a jamais une configuration. Enfin, il n'y a jamais une configuration. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura jamais une configuration identique, mais les probabilités me contrediront. Mais on comprend qu'effectivement, d'une partie à une autre, il va y avoir des zones qui vont être plus intéressantes que d'autres, quoi. Voilà. La topographie du terrain va beaucoup jouer. Voilà, j'ai expliqué un peu les règles en commençant à expliquer un petit peu ce qui se passe dans le jeu, en termes de dynamique. Je ne sais pas si toi tu veux ajouter des choses là-dedans.
Quand tu en parles, ça fait vraiment penser à un jeu de guerre où tu étudies d'abord la topographie avant de placer tes troupes.
C'est vrai.
Non, mais vraiment, quand tu en parles, ça fait vraiment
ça. C'est vrai. Moi, je trouve pas que je trouve pas qu'on sente trop le thème quand même dans Sengoku. Enfin, j'avais pas l'impression de me sentir un chef de guerre, tu vois. Mais oui, je pense qu'effectivement, on peut le voir comme ça et se dire que effectivement, on a étudié la topographie du terrain, on est venu placer ses troupes où ce qu'on pense être les bons endroits. Parfois, on a réussi, parfois, on n'a pas trop réussi.
On a joué sa carte tactique au bon moment.
C'est vrai.
Et ça crée une tension. Je pense qu'on a la même tension dans des combats. Hein,
oui. C'est... enfin, je suis jamais allé combattre, donc je pense que ça doit être un cran au-dessus,
ouais,
quand même, malheureusement,
chance-là.
Quand on est sur un champ de guerre. Mais oui, il y a de la tension dans le jeu, ça c'est clair. Moi, ce que je note en tout cas, c'est que c'est quand même très épuré comme jeu. Hein. Là, il n'y a pas 40 pages de règles. j'ai tout dit et franchement, j'en ai rajouté. Hein. Je pense que j'aurais pu être beaucoup plus succinct. Et pour autant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un jeu épuré, mais dans ces jeux pré-mâchés, tu vois, où on va dérouler, oui, ça se joue facile, ça se joue vite, machin. Non, là, vraiment, chaque choix est quand même important. C'est déjà, est-ce que je lance mes dés ou est-ce que je prends une carte tactique? Je n'en ai qu'une pour toute la partie, donc il faut vraiment choisir le bon moment de la jouer. Et bah, malgré tout, alors certes, au début de la partie, tu es plutôt en mode j'attrape les dés, je les lance, quoi, tu vois. Mais à un moment, il faut commencer à arrêter de se jeter sur les dés pour les lancer, parce que si tu veux jouer ta carte tactique, il faut le faire avant de lancer tes dés. Et puis, même une fois que tu as lancé tes dés, bah, tu as le choix potentiellement de trois combinaisons. Donc, où est-ce que je me place? Comment je gère avec le tempo du jeu? Est-ce que je vais tout de suite placer trois soldats? T'hésites quand tu dis, là, je peux me placer. C'est la zone où j'aimerais bien me placer, mais je dois en placer trois. 3, c'est beaucoup quand même par rapport à ton stock de 18, quoi. C'est un sixième. Donc si tu fais ça tous les tours, tu joues que 6 tours, quoi. Et puis, est-ce que je relance, du coup? J'ai qu'une relance. Si ma relance, elle est pire que la précédente, j'ai l'air d'un con. Donc c'est, je trouve que chaque choix se pèse, quoi. Moi, je ressens ça comme ultra puissant dans le jeu.
Il est très très puissant, je suis bien d'accord avec toi. T'as vraiment ce choix aussi entre je vais sur une zone qui marque peu de points, mais qui me permet des cascades, ou je vise beaucoup de points en direct, mais attention aux attaques qui peuvent arriver en
cours
de route.
C'est ça, ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Je parlais du tempo, il y a ce moment où on sort du jeu. Ça aussi, c'est assez important. Est-ce que vraiment je lance beaucoup de troupes ou pas pour sortir vite? Parce que sortir vite, c'est aussi un avantage sur les égalités. Plus je sors vite, plus j'ai un ordre de priorité dans les égalités. Voilà. Très très Las Vegas aussi, hein, parce que si tout de suite j'arrive, je pose trois troupes, bah les autres ils vont hésiter à venir, parce que s'ils mettent une troupe puis deux troupes, tu vois, il va falloir qu'ils fassent plusieurs jets de dés pour réussir à combattre. Si j'en ai sorti trois, c'est-à-dire que, enfin, si je mets trois bonhommes, ça veut dire que peut-être je vais sortir vite, donc du coup ça veut dire que potentiellement je gagne les égalités. Donc même si t'en mets trois derrière, t'en as mis trois mais tu vas perdre. Ah, il y a aussi ça, quoi. Il y a vraiment ce truc à doser entre je me mets un petit peu partout, ce qui peut quand même faire gagner les deuxièmes places, l'air de rien. Ça peut quand même gagner la moitié des points un peu partout, ça peut être gagnant. ou est-ce que j'y vais violemment? Je dis, ah, ici, c'est chez moi, quoi. Avec, comme tu l'as très bien dit, le risque, malgré tout, de me faire avoir, non pas forcément directement sur le territoire, mais par les cascades.
La vitesse d'égrenage est en effet très très importante. On le ressent fort dans le jeu, oui.
Et puis, c'est un jeu dans lequel il y a des retournements de situation, et parfois des retournements, mais extrêmes, voire inattendus. Alors, t'as les jets de dés déjà, avec les doubles et les triples. Tu pestes un petit peu. Il y a des jeux dans lesquels c'est bien de faire des doubles et des triples, mais alors là, pas trop. D'ailleurs, dans Civolution non plus, hein, c'est pas très bien de faire des. Hein, on s'en
C'est
rappelle
vrai.
bien, là-bas.
Un triple 1 dans ton jeu aurait beaucoup plus servi.
Dans Rebel Nation, ouais, ça peut être plus intéressant. Ouais. Bref, là, il y a des retournements dans l'astuce. Bon, il peut y avoir la carte tactique qui peut être utilisée à un moment où on s'y attend pas forcément. Tu vois, il y a aussi ce truc des fois où on dit bah, je vais sortir plus tard. Enfin, où toi, tu veux ralentir ta sortie, puis finalement, bah, tu te retrouves à être contraint de poser trois de tes soldats alors que bah, c'était tes trois derniers. Enfin, bref, il y a vraiment, dans toutes les parties que j'ai eues, moi, il y a un moment où il y a quelqu'un, il y a au moins une fois, il y a quelqu'un qui fait, ah, merde, ça, c'était pas prévu. Et puis, alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que un petit défaut, je pense, quand même, c'est, on a commencé à entrevoir que avec cette phase de résolution et ces cascades, il faut réussir à se projeter un peu sur ce qui va se passer. Parce que, ok, il y a une espèce d'ordre établi qui est visible, ça c'est très très lisible, hein, il n'y a pas de problème, hein, t'as 3000 pages, j'en ai deux, ça va. Mais attention à côté, tu gagnes la zone, donc tu vas m'en cascader deux, donc en fait c'est pas moi qui gagne là. Enfin, je sais plus quel exemple j'ai donné, mais admettons j'avais 3000 pelles, t'en avais deux. À côté c'est toi qui gagne, ça veut dire qu'en réalité c'est comme si t'en avais quatre dans la zone et pas trois. Ça, c'est pas forcément facile à lire. Moi, j'hésite pas trop en général à dire voilà, là ça cascade là, là ça cascade là. Voilà, bon, ça peut être. N'hésitez pas à aider des gens qui ont eu du mal à visualiser ça en leur déroulant un petit peu ce qui se passe si vous êtes plus à l'aise pour le faire, quoi. Moi, j'aime bien ça. C'est un truc que j'arrive assez bien à me figurer ce qui va se passer. Je me fais un petit peu le film dans ma tête, tu vois. Et je trouve ça assez esthétique déjà, je trouve ça assez joli de voir le film comme ça dans ma tête. Et du coup, c'est le genre de jeu qui me correspond pas trop mal, quoi. Je sais pas si toi, t'es à l'aise avec ce genre de lecture, par
Je
exemple.
suis moins à l'aise et du coup tu as beaucoup aidé, mais je trouvais qu'à la fin des tours, enfin sur les dernières troupes qui sont posées, il faut refaire le film sans arrêt. Du coup, enfin,
Oui,
vous étiez sans
c'est
arrêt en
vrai.
train de recompter,
Ouais.
etc. Et moi j'en étais presque à me dire, bah maintenant je vais laisser dérouler et je vais voir si mon feeling a suffi.
Oui, ouais, je
Spoiler, ça n'a
comprends,
pas suffi.
ouais. Oui, bah pour moi non plus, hein. Voilà, vous comprendrez qui a gagné. Ouais, et il y a une rétention, hein, j'en ai parlé, il y a une rétention qui s'installe dans la partie. Alors, autant au début, évidemment, c'est relativement plan-plan, on va commencer à poser un peu des trucs à gauche, à droite, puis ça monte, ça monte, ça monte, parce qu'à un moment, on commence à plus avoir beaucoup de troupes, il y a quelqu'un qui commence à être fort dans une zone, on dit ah, il faut absolument que je réussisse à faire ça, et on n'y arrive pas. Moi, j'adore cette montée comme ça, il y a vraiment un côté très crescendo dans le jeu, où jusqu'au point d'orgue, où on arrive effectivement à ce moment de résolution. Avec cette phase qui est très cinématographique pour le coup, parce que là on va vraiment dérouler, on va prendre la zone 2, tac, on va mettre les renforts, clac, 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 clac. Et là on pourrait faire un peu, tu sais, des photos et faire se dérouler le jeu en mode stop motion. C'est vraiment un jeu qui se prêterait à fond à faire comme ça du stop motion là, pour montrer comment ça évolue. Moi j'adore aussi les cartes et les trucs en géographie ou les reportages comme ça qui te montrent comment les choses évoluent sur des territoires et tout. Du coup, c'est complètement ma came, là. Je suis à fond dans mon élément, dans les trucs que je kiffe
C'est un
avec des
peu
jeux
ce
comme
qu'ils ont
ça.
fait sur BGA. On a testé la version bêta où à la fin, ils nous
Oui.
montrent le déplacement des troupes en fonction de ce qui a été remporté. Bon, il y a d'autres petits bugs encore à résoudre sur cette version-là.
Oui, c'était une
Ouais.
bêta.
Mais on voit bien justement les troupes se déplacer, venir renforcer les copains et gagner du coup des nouveaux territoires.
Ouais. Il leur manque un truc, si jamais ils écoutent, tu vois. Il faudrait qu'ils mettent la couleur en fond de celui qui gagne le
Ah oui.
territoire. Et tu vois, tu verrais en fait la couleur qui change aussi, et tout, clac, clac, clac. Ça, ce serait génial, ça. Ça, c'est le genre de truc. Je
Très
revois des
visuel,
cartes.
ouais, clairement.
Ouais. Donc ouais, là j'ai vraiment je kiffe ce moment où ça monte comme ça et puis paf la phase de résolution. Je disais les configurations de départ elles sont vraiment importantes dans le sens où elles vont créer de la variété dans le jeu. Alors bien sûr il y a la variété dans les tirages qui vont se faire, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que en fait le jeu il pourrait être finalement organisé toujours pareil, ça me gênerait pas. Mais là, en plus, il y a ce côté où les provinces ne valent pas toujours le même nombre de points. Et donc, tu as vraiment une sensation d'être dans une nouvelle config à chaque fois. Et c'est pas artificiel. Parfois, je trouve ça assez artificiel dans certains jeux. Là, je trouve que ça a vraiment du sens. Il y a vraiment des régions parfois où il y a des parties où tu veux pas y aller, quoi. C'est vraiment. Tu dis, mais vas-y, va là-bas. Il y a un truc dans lequel, en plus, là, la numérotation fait que ça cascadera même pas ailleurs, quoi. Donc, c'est vraiment le coin paumé. Il est dans une impasse là-bas. Et puis, en plus, il viendra même pas profiter dans un territoire plus tard. Non, non, il est dans le mauvais
C'est un
ordre.
marais où tu vas t'embourber, la topographie n'est pas bonne.
Ouais, c'est ça. Et puis là, ah, putain, merde, elle te place 3 là-bas. Allez, super. Je suis content.
Il se
J'ai
passe
fait
rien.
six points.
T'as 3 points.
Et encore, t'as des pertes de 3 points. Ouais.
Ouais. Les cartes tactiques qui sont visibles dès le départ, je les trouve assez inégales. Alors, bon, après, à nous d'en tirer parti et d'utiliser celles qui sont les plus intéressantes. Hein.
Ouais. Ah, je pense que c'est
Ouais.
fait exprès, ouais. Je pense que c'est complètement fait exprès qu'elles soient inégales. Je pense que c'est pas déconnant. Parce que justement, il y a ce côté, il faut y aller avec un certain nombre de priorités. Si elles étaient toutes valables, en fait, ça perdrait en tension sur à quel moment je me jette sur la carte tactique. Et alors que là, justement, quand même, elles sont pas égales. Alors, elles sont pas égales, mais des fois, c'est aussi une question de contexte, hein, mais de base, je pense que de base, elles sont pas égales. Et je pense que c'est important, en fait.
Possible.
Voilà, enfin bref, moi je trouve que c'est un jeu qui réussit vraiment son pari de créer de l'attention, de peut-être finalement, tu vois, pour moi j'étais pas spécialement trop dans la peau d'un chef de guerre, mais finalement, toi tu me dis que tu le sens peut-être un peu plus, donc finalement il le réussit peut-être aussi ça. Tout ça avec finalement assez peu de moyens, parce qu'au final on a un plateau. Tu vois, alors très clair hein, pour le coup, visuellement c'est très clair. Les délimitations elles sont claires. Bon, il y a des adjacences par mer. Alors au début les gens ils se posent la question, mais franchement j'ai jamais eu de problème avec personne en jeu. Tu vois, sur le fait que les territoires étaient adjacents et quelques cubes. Alors en plus moi j'ai la version comment dire pas pimpée, pas de luxe. Hein. Et franchement ça suffit. Quelques cubes. DD et quelques cartes et des sensations de fou quoi avec une épure de règles hallucinante. Enfin, moi je trouve c'est juste canon quoi.
Oui, je te rejoins. Merci de me l'avoir fait essayer. J'ai beaucoup apprécié nos parties, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à une. On a envie d'une revanche, on a envie de découvrir.
C'était
Ah
voulu la
bah
revanche,
oui,
c'est vrai. Tu regrettes du coup, mais bon.
C'est ouais, très, très épuré, une tension hyper forte. Par contre, tu vois, j'aurais pas pu enchaîner une troisième partie. C'était. Oh, j'étais au taquet de la tension.
En sueur.
Ah ouais, c'est bon, hein, cette force que peut avoir un jeu à te mettre dans cet état-là, moi je trouve ça très très fort.
Alors dans la version du coup qui va paraître peut-être à la fin du mois, désolé, il y a visiblement une extension qui est incluse. Enfin, ils appellent ça version avancée dans les règles. En gros, enfin, on a une carte qui représente le chef de guerre qu'on incarne au début de la partie avec un système de draft. Et puis on a un de nos soldats qui est remplacé, un ou deux, je sais plus, de nos soldats qui sont remplacés par cette figure, donc un meeple un peu plus conséquent qui représente justement notre chef de guerre et qui va avoir un effet. Donc il y a une légère asymétrie de départ qui est proposée comme ça. Je sais pas ce que ça vaut du coup, parce que vous comprendrez que j'y ai pas joué. Dans le genre j'y ai pas joué, j'ai pas joué à deux. Il y a absolument rien qui change dans la mise en place. Qu'on soit à deux, à trois, à quatre, enfin à part le nombre de cartes. Hein, j'ai dit que c'était le nombre de cartes plus de nombre de joueurs, joueuses, pardon, plus un. C'est le seul truc qui change. Et donc pour moi le jeu il a beaucoup plus d'intérêt quand même à être joué à trois ou quatre. Quatre pour moi c'est le summum. où là c'est le bordel, il y a des alliances de, enfin, des alliances de circonstances, des alliances sur un jet de dés, hein. C'est des alliances, c'est des espèces de de pseudo-négociations qui se font, voilà, va emmerder lui plutôt que m'emmerder moi. Donc forcément il y en a plus à 4, voilà, c'est sûr. Et comme pour moi c'est l'essence du jeu et c'est ça que veut exprimer le jeu, bah, c'est à 4 qu'il l'exprime le mieux. À 2 j'ai même pas envie de jouer. Je m'étais dit que je ferais l'effort pour l'émission, mais en fait, je sais que ça sera forcément moins bien. Il n'y a pas de doute permis là-dessus. BGG est d'accord avec moi. Les gens ont voté best 4, je crois.
Bah, je serais ravi d'y jouer à 4 pour voir le complément d'alliance temporaire que ça peut donner.
Ouais, non, en fait, j'ai utilisé le terme alliance, c'est galvaudé, c'est vraiment plus, tu vois, il y a plus de discussions, quoi, à la table. Il y a plus de tentatives de dire, ah bah non, c'est lui qui fait embêter, regarde, ça va cascader là, nanana. Et après, s'il vient là, imagine, il vient là, ça va, il va venir t'embêter là. Donc, enfin, en gros, t'essaies de chasser les autres de chez toi, quoi. Et comme il y a plus de monde, bah, forcément, t'as plus d'occasions de le faire.
Ça rejoint beaucoup Las Vegas, en effet, sur ce côté-là.
Ouais. Il y a vraiment... c'est très, très proche dans le feeling de Las Vegas, mais avec une dynamique un peu différente, parce qu'il y a ce côté positionnement géographique. Dans Las Vegas, il n'y a pas les adjacences, tu vois. Les casinos ne sont pas adjacents les uns aux autres. Là, il y a ce côté, en plus, de cascade. C'est vraiment la fusion de El Grande, Las Vegas, Québec. Tu fusionnes ça, tu prends les idées un peu marquantes de ces trucs-là, et puis tu tombes un peu là-dessus, quoi. Il n'y a juste pas une des idées marquantes de Las Vegas, c'est les égalités. Il n'y a pas ça, les égalités qui s'annulent. Voilà. Qui n'est pas d'ailleurs une idée de Las Vegas, mais c'est un élément marquant du jeu. Voilà. Enfin bref, pour moi, donc ce Sengoku Province en guerre, que j'ai réussi quand même à respecter, j'ai réussi à respecter son nom, je crois, à peu près jusque-là, c'est un jeu qui est incroyable d'épure. C'est un jeu qui est en même temps plein de choix, alors qu'on est réduit à, grosso modo, un jet de dés et une carte à jouer dans la partie. Ça râle, ça influence, ça peste. Et sur le gâteau, à la fin, toi, t'as l'impression d'assister à un film qu'on a co-réalisé. Alors, parfois à l'insu de notre plein gré. et voilà, et pour moi, c'est vraiment un jeu hyper marquant. C'est un jeu, tu vois, on me l'a offert. C'est un jeu que j'ai fait beaucoup découvrir. J'ai déjà fait pas mal de parties. Et voilà, c'est vraiment très 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 bon. J'ai aucun mauvais retour dessus pour le moment. Donc allez essayer, faites-vous plaisir. C'est effectivement disponible sur BGA en bêta pour l'instant, donc ça devrait pas tout sortir d'ici trop longtemps si vous l'essayez. C'est moins puissant sur BGA malgré tout, malgré les efforts qu'ils ont fait. C'est moins puissant que d'y jouer en vrai. Moi je trouve, parce qu'il y a ce côté, comme je disais, il y a un peu de discussion à la table, quoi. Donc on perd ça sur BGA. Si vous le faites, faites-le avec des gens en vocal, quoi. Si vous voulez vraiment ressentir le potentiel du jeu. Ça ne viendrait pas à l'idée, toi, de jouer à Las Vegas sur BGA avec des inconnus. Voilà. Non, bah, on peut toujours, mais on n'en ressort pas avec la même expérience, quoi. C'est ça que je veux dire.
J'ai le même ressenti que toi. Enfin, un excellent jeu, plein de tensions, très épuré, très simple et pourtant tellement riche. Eh ben, écoute, j'attends qu'il sorte. J'espère en effet bientôt. Et ouais, il rejoindra ma ludothèque également.
Ok, cool, super. Ben voilà, ça fait des bons échanges de procédés. Allez, on va passer à la fin. Donc du coup, c'était Sengoku Province en guerre, dans son nom d'origine Rumble Nation, un jeu de Shinichi, illustré par Yamamoto Masaki, édité à l'origine par 77 Spiele, massacrons tout, et Ubi Japan. Ça a été localisé par Ubi Japan, distribué par Novalis, pour 2 à 4 joueurs joueuses. Je vous conseille vraiment plutôt d'y jouer à partir de 3, à partir de 10 ans. C'est accessible avant, en vérité, hein. Honnêtement, c'est pas très compliqué. 8 ans, ça peut passer, selon l'expérience de vos enfants. Après, il y a de la tension, hein. Donc, comme l'a dit Lana, on sort en transpirant un peu, hein, quand on trépigne un peu sur sa chaise des fois, hein. Voilà, et ce sera donc bientôt disponible à la caverne du Gobelin. Les tarifs, il faut s'attendre à peu près à un tarif autour de 32 € d'après ce que j'ai pu voir à gauche à droite sur les internets. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Lana pour cette première participation au jeu du mois. J'espère que ce ne sera pas la dernière.
Merci Cyrus.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur X, Facebook, Instagram, Mastodon ou encore Blue Sky. On est également sur Discord, on a un Discord, donc venez retrouver les liens de tout ça sur notre site, en page d'accueil. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Si vous avez aimé cette émission ou si vous aimez de façon générale ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement pour ça. On a un PayPal avec l'adresse qui est disponible sur la page d'accueil de notre site. Et vous pouvez également nous aider via un virement bancaire à l'association de Proxy Jeux. Pour ça, vous nous contactez en message privé puis on vous enverra notre RIB. Voilà, ça vous permet de... Ça permet surtout qu'il n'y ait pas d'intermédiaire qui se sucre sur votre dos ou sur le nôtre. Voilà. Les virements bancaires, normalement, qu'ils soient uniques, ponctuels ou qu'ils soient réguliers, normalement, ne sont pas soumis à des prélèvements. Donc voilà, c'est la meilleure option pour nous aider. Le mois prochain, on retrouvera un nouvel épisode des Jeux du Mois avec un nouveau duo. En tout cas, a priori pas le nôtre, voilà. Il sera peut-être pas complètement nouveau et inédit, mais ce sera un autre duo que le nôtre. Et la semaine prochaine, normalement, vous devriez avoir un dossier de Proxy Jeux dans vos oreilles. Voilà, il nous reste à vous dire à très bientôt. Et surtout, jouez bien.